va passer à table ronde numéro 3. Donc j'appelle Yves à la Mercerie, conseiller municipal à Saint-Chamond, Johan Sichy, responsable du service Espace Vert à Saint-Chamond également, Stéphanie Thirault, responsable QSE, entreprise de matériel de sécurité d'habillement T2S à Sorbier, et enfin François Boléa et Yves Poussin, responsable biodiversité, écologie et responsable de site à l'entreprise Terridéal. Donc nous allons nous interroger sur comment faire entrer les agents des services Espace Vert dans une démarche de changement avec l'exemple de Saint-Chamond. Nous allons nous interroger sur comment mobiliser ces salariés dans une entreprise et quels intérêts nous avons à faire une gestion écologique différenciée quand on est une entreprise qui entretient des espaces verts avec Terridéal. La parole est à Saint-Chamond. Essayez d'être concis, je suis désolée, vous êtes la troisième table.
Ben écoutez, déjà merci pour votre invitation. On savait qu'on avait que 10 minutes, donc on n'a pris que 5 diapos. Voilà la première diapositive. Je vais faire un petit commentaire plus d'ordre politique. Ensuite, je passerai la parole à Johan Sichy, notre responsable Espace Vert. Donc chez nous, c'est parti d'une volonté politique, puisqu'on m'a confié après les dernières élections une mission de valorisation du patrimoine naturel. Et ça, je pense que ça peut être important pour d'autres mairies. Au départ, c'était un peu une page blanche que j'ai eue, parce qu'à part quelques idées sur les relations avec le parc et puis un refuge LPO, il ne s'était pas passé grand-chose sur ces questions de biodiversité. N'ayant ni le temps ni les moyens qui ont été développés par Saint-Étienne Métropole pour construire un projet aussi ambitieux de plus de 100 actions, je les ai comptées, on s'est finalement limité à une dizaine d'actions. Donc il y a une première étape de documentation. Je me suis beaucoup intéressé au contrat vert et bleu de Saint-Étienne Métropole, qui était une source d'inspiration. Il a fallu ensuite constituer un réseau de partenaires, donc la plupart des partenaires qui sont cités ici, LPO, France Nature Environnement, la Fédération de Chasse, le Conservatoire Botanique National, etc., etc. Il a fallu aussi travailler en relation avec nos services internes, donc le service Espace Vert, la voirie, la DAC et le service COM, qui ont accepté de bon cœur, je dirais, de rentrer dans les projets. Et puis la dernière étape, c'était de structurer et valoriser le projet. Donc pour ça, j'ai demandé une valorisation de territoire engagé pour la nature qu'on a reçue l'année dernière, et qui repose sur une analyse par territoire, donc avec trois types de territoires, le territoire agricole, sur lequel on va dire en continuité des actions du contrat vert et bleu, le territoire naturel où il y aura pas beaucoup d'interventions mais plus des actions de communication, et puis le territoire urbain avec des actions de sensibilisation du public. Un point important, c'est que par rapport aux interventions, on a prévu des mesures d'impact en termes de biodiversité en fonction des projets. Donc c'est important, si on fait quelque chose, de vérifier si ça servit à quelque chose. Donc il y a quelques inventaires avec la LPO notamment et d'autres. Et puis il y avait une question de mobilisation, de motivation des services. Moi, j'avoue que j'ai pas eu grand chose à faire. Ils étaient motivés tout seuls, déjà bien engagés sur ces sujets. Donc ça fonctionne tout seul. Ce que j'ai pu percevoir, c'est que ça introduisait des activités un petit peu différentes de leurs pratiques habituelles, et que finalement ça leur faisait plaisir de changer un petit peu. Donc je passe la parole à Johan pour qu'il parle de quelques actions en cours. Voilà.
Merci. Donc, juste pour faire un bref retour sur les brefs slides, mais pas besoin de revenir en arrière. Ce que la volonté déjà politique a impulsé, ça a été entre guillemets nous remettre un peu en question sur nos habitudes, mais aussi certains a priori et préjugés qu'on pouvait avoir sur la nature et la biodiversité de manière générale. Donc déjà, notamment, c'est attelé à déjà comprendre notre territoire. Service Espace Vert, on travaille principalement sur le tissu urbain, mais à l'échelle du territoire, voilà, c'est une toute petite partie. Et la biodiversité n'ayant pas de limite, il nous a fallu entre guillemets prendre un peu de recul par rapport à notre champ d'activité. Si vous pouvez repasser à la. Les bénéfices de tous les acteurs, ça c'est plutôt pour ma partie entre guillemets de service que j'en retire, et ben c'est que là encore ça m'a confronté à certains a priori et préjugés que je pouvais avoir. Je suis issu de formation horticole et la biodiversité il y a 10-15 ans c'était pas encore ça qui était ça, on parle encore d'adventices et de mauvaises herbes. Donc voilà, et ça m'a aussi conforté dans l'approche où entre guillemets des fois on peut se sentir un peu tout seul quand on parle de ces sujets-là, et de sentir qu'il y a des acteurs qui sont là sur le territoire, ça permet entre guillemets de prendre confiance là-dessus. Sachant que on n'a pas la fond et j'ai pas la volonté et la prétention de tout savoir, donc on a des partenaires institutionnels que sont Métropole et le Parc qui lancent des entre guillemets des stratégies, des politiques, qui créent de la base documentaire, et on a des partenaires plutôt techniques qui ont de la connaissance que l'on n'a pas, l'LPO, France Nature Environnement, le Conservateur Botanique, je vais tous les citer, Arthropologia et la Fédération de Chasse. Donc sur les étapes, donc on a entre guillemets un programme qui nous a entre guillemets à agir, à arrêter de théoriser et de se poser des questions via le TEN, et donc avec des actions concrètes et aussi des, comme Monsieur Amersiri l'a évoqué, des initiatives qui sont lancées depuis quelques années en lien avec l'évolution aussi des mentalités via le label des villes et villages fleuris, où maintenant entre guillemets la part de fleurissement est devenue mineure dans la démarche de la labellisation, et on a tout toute l'aspect environnemental à développer. Donc concrètement, si vous pouvez passer à la diapo suivante. Alors on a toute une série d'actions. Une des plus emblématiques et qui a vraiment marqué le service, c'était la réalisation du boisement Miyawaki. Pour ceux qui connaissent Saint-Chamond, il est situé juste derrière la gare, en plein centre-ville. À la base, dans le service, quand j'ai annoncé qu'on allait travailler sur la zone, tout le monde a percuté, on va faire un point de fleurissement. On est parti complètement à l'inverse. Voilà, donc on a créé une mini-forêt urbaine. Où cet exemple me plaît beaucoup, c'est que de base les agents avaient entre guillemets la connaissance l'usage du jeune plan, alors qu'on s'interdisait complètement l'usage du jeune plan en centre-ville, c'était du 16-18 voire du 18-20. Ils le faisaient dans les zones très périphériques où ils s'amusaient à récupérer à certains endroits, droite à gauche, des arbustes. Là, on a été marqué d'un geste fort en plein centre-ville, la plantation de plus de 1000 sujets. Et pour associer les agents, en fait, l'important dans nos démarches, et c'est ce qui se passe aussi sur Nova Siri, c'est d'évaluer nos méthodes pour apporter du concret sur la biodiversité et pas être simplement sur des préjugés. Donc là, on est ici sur le parc de Nova Siri. Donc Joseph Perreton en a parlé tout à l'heure. Nous, ça a été un gros challenge quand le parc a été en mise en service. Pour faire la petite histoire, donc c'est un site industriel qui était complètement pollué, 5,5 hectares de parcs à récupérer en gestion, à savoir que chez nous, une équipe, elle gère entre 10 et 15 hectares. Donc ça a rebattu toutes les cartes de la répartition des surfaces dans le service. L'équipe qui a eu la gestion de ce parc, alors déjà, j'ai déjà été sensible à prendre des agents qui avaient, entre guillemets, une certaine sensibilité environnementale, et où la démarche, elle est pour moi très intéressante, elle n'est pas encore figée, c'est qu'on a pris un parc avec des plans qui étaient faits, donc une strate végétale principalement horticole, avec quelques niches de végétal local. Mais sur 5,5 hectares, en fait, on avait très bien la conviction qu'on n'en arriverait pas à tout maîtriser, qu'il y a des zones qu'il faudra déjà laisser un peu faire. Concrètement, donc sur les diapos du bas, on a par exemple une zone, alors je pense que ça parlera ici, j'ai appris le terme en arrivant dans la région de Boutasse, qui était présente au pied d'un mur en pierre, voilà une zone qui était impraticable, même en phase d'aménagement, qui n'a quasiment pas été aménagée. Et de cette zone-là, il y a l'initiative, donc à la demande de Monsieur Lamersuri, les agents ont tout de suite embrayé à la création d'une mare que l'on est venu planter aux abords avec du végétal local. Donc alors on n'a pas la marque, mais voilà, on est accompagné par le Conservatoire botanique pour aller collecter des plantes dans le milieu naturel et les réintroduire sur ces espaces-là. Dans l'évolution des espaces, on a des grandes surfaces, on les voit pas trop ici, de merlons végétalisés, où on a des arbres principalement exotiques qui ont été apportés. et où la transition est intéressante, c'est qu'il y a des zones où on avait beau, entre guillemets, replanter, ça ne prenait pas, et ben on a laissé faire, et maintenant on a des érables et des choses comme ça, voilà, qui arrivent à faire leur apparition. Et pour pas être trop long, la prochaine étape, entre guillemets, de développement de la biodiversité, nous, ce qui nous semble important sur le territoire, c'est de le faire tout seul dans notre coin. En fait, c'est bien, on se fait plaisir, mais ça parle pas forcément à tout le monde. Donc ça va être de trouver des acteurs concrets. Donc on travaille déjà beaucoup avec les acteurs, avec certaines associations. On va travailler avec les jardins familiaux, avec les conseils de quartier, pour, entre guillemets, mettre des actions de concert sur le territoire, où le jardinier pourrait, entre guillemets, expliquer sa démarche et lui aussi se conforter dans son approche. Et voilà, et je le répète, mais il y a vraiment, je pense, un enjeu à casser tous ces préjugés, ces a priori que l'on peut avoir sur la nature et le vivant. Voilà.
Voilà, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises privées ici dans l'Assemblée. Voilà, super, et ben voilà. Donc, merci pour votre invitation. Moi, je vais juste présenter très rapidement T2S. Alors, on n'est pas du tout... la nature n'est pas notre quotidien du tout. Nous, on est dans l'équipement de protection individuelle, haute visibilité, flou et rétro-réfléchissant. Voilà, je voulais juste vous présenter ce qu'était notre quotidien et notre activité. Et on commercialise et on fabrique et on commercialise des kits de balisage, des kits de communication pour véhicules. Voilà, divers et variés. Alors aujourd'hui, on a une démarche bien intégrée, une démarche environnementale. On a commencé en 2014 grâce à notre label à Prime Vert. Alors, c'est un tout petit label, mais qui est très très important parce que c'est le début de l'histoire de la démarche environnementale. Rapidement, juste à savoir, dans notre activité, on a un atelier sérigraphie où on manipule beaucoup de produits chimiques. Donc, un Prime Vert a été le premier pas pour, je dirais, imprimer proprement et en toute sécurité pour, je dirais, nos collaborateurs. Donc ça, c'était notre premier pas. Après, on s'est dit que c'était hyper intéressant. Donc, un Prime Vert 2014, 2016, 2016, nous sommes certifiés ISO 14001, la norme environnementale. Donc, pour toute notre activité au global société. Après, on a enchaîné avec la santé sécurité au travail, donc ça c'est la 45001. Et là où faut le dire, hein, aujourd'hui nos clients nous demandent énormément d'informations sur notre dynamique environnementale et en règle générale RSE. Voilà. Suivant. Voilà, c'était tout. Voilà, donc participation, action. Voilà, donc moi je vous ai fait tout un album photo, donc je vais pas beaucoup, parler. Et puis de toute façon, l'essentiel a été dit là jusqu'à maintenant. Donc nous, on préserve la faune et la flore. Donc nous, on se situe à Sorbier, sur la zone industrielle d'Avord. On bénéficie d'un hectare d'espace vert, on a cette chance-là. Donc c'est à la fois petit et c'est grand pour une entreprise. Donc, on va en profiter pour, la mettre en valeur et, profiter, de ce terrain pour préserver la faune et la flore existantes. Donc, nous, on a souhaité nous adosser à des conseillers et professionnels, et notamment l'association la LPO. Donc, on a signé une convention refuge entreprise LPO. Voilà, depuis 2019. Donc, on a tout un plan d'action. Là, vous voyez Béatrice, qui est la référente LPO, qui nous suit, régulièrement. Vous voyez aussi là, en premier plan. Donc, ça, c'est notre site. Je ne sais pas si on m'entend bien. Je ne parle peut-être pas en face. On a mis en place des prairies fleuries. Donc là, vous voyez quelques photos. La suivante. Donc un espace vert avec une zone pique-nique pour nos salariés aussi, pour qu'ils se sentent bien. Donc là, c'était une opération nettoyage auquel on a fait participer une partie de notre personnel. S'il vous plaît, juste avant, rapidement. Non, avant. Merci. Une chose importante, voilà, c'était une opération qui a duré une demi-heure. Une journée au mois de juin, il faisait beau, il faisait chaud, il faisait très chaud. Et là, moi, j'ai invité au moins une personne par service à participer à cette opération. Voilà. Sur la base du volontariat, pardon. Donc, à ma grande surprise, j'ai eu beaucoup d'inscrits. Alors, c'est sur le temps de travail. Ça, c'est tout à fait normal. On a ramassé. On était une vingtaine de salariés. On a ramassé des déchets, des papiers volants, des déchets divers et variés, et auxquels a participé notre PDG que vous voyez sur la diapo de droite. Voilà. Donc là, on voit un peu le site. On a la chance d'avoir un petit bois, une boutasse aussi. Donc la suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc en fait, une partie de ce petit bosquet ne nous appartient pas. Mais il juxtapose le terrain de T2S. Donc nous, on a fait notre terrain. C'était quand même dommage de pas pousser jusqu'à ce petit bosquet qui ne nous appartient pas, dont nous ne sommes pas propriétaires. Au final, dans ce bosquet qui est ouvert, on a retrouvé des canettes, des choses diverses et variées. On a œuvré, et vous remarquez malheureusement pas mal de déchets, puisque beaucoup de déchets volent au vent, malgré, les haies, les barrières, etc. Et l'incivilité aussi, pas forcément de nos salariés, mais de personnes extérieures. Voilà. Donc nous, on a tout un programme d'amélioration. Donc là, on a, sur les conseils de la LPO, on a pu mettre en place une haie de binge, qui est une haie, à la fois artificielle mais naturelle. Je ne sais pas si vous connaissez. On amasse des bois morts et des tontes, des herbes, etc. Et on a aussi profité pour offrir un gîte, deux gîtes pour hérissons. L'année dernière. Donc on n'a pas eu de choupissons cette année, malheureusement. Donc ils sont pas venus. Peut-être l'année prochaine, je sais pas. Voilà. Donc on a aussi planté des arbres puisque on avait l'espace pour. Donc on a planté des noyers, des châtaigniers. On a aussi planté des haies bocagères, arbousiers, charmes, cornoyers, érables, champêtres, à mélanger. J'espère qu'on a bien choisi nos espèces. Voilà. Donc là, on a aussi eu pour projet cet hiver, pendant les périodes de grand froid et gel, de la nourriture pour nos oiseaux, puisque avec l'aide de la LPO, on a recensé 28 espèces d'oiseaux sur notre site. Petit soit-il notre site, mais quand même 28 espèces. Moi, j'ai été très très surprise. Là, vous avez deux photos d'un terrain des aulnes, sauf erreur de ma part. Voilà. Donc, comme je vous disais, je suis avec la référente LPO. Gestion de nos espaces verts. On a, installé des prairies fleuries. On a semé de la viperine bleue, de la camomille, de l'anthémis, de l'achillée blanche. Des jasmins, des lierres, des vinca majors. On a tout un programme de gestion de nos différents espaces verts. Voilà, donc toute la zone pique-nique, effectivement, pour le confort de nos salariés, on la laisse pas en friche. Pour qu'ils puissent manger, que l'herbe ne les chatouille pas sous les mollets. Voilà, on a fait une opération aussi jardinage, 20 minutes de jardinage avec notre partenaire, notre paysagiste qui s'occupe de notre site, qui était très très content de participer à cette petite intervention. Donc en fait, on avait deux bacs et on a planté de la menthe, du persil, du thym, de l'origan, des framboisiers, de la verveine, etc. Donc là aussi, autour de deux bacs, on pouvait pas être 40. On a limité à 8 personnes la participation. Notre paysagiste nous a aidés et nous a appris à bien planter. Et pour la petite anecdote, moi j'ai une de mes collègues donc qui participait à cet atelier qui m'a dit, elle a 30 ans, elle m'a dit c'est la première fois que je mets mes mains dans la terre. Voilà. Et c'est un fait vrai. Et pendant cette petite demi-heure de jardinage, et ben en fait nous tous, enfin les 8 je dirais collaborateurs, ont posé toutes les questions qu'ils souhaitaient à notre paysagiste. Donc là en l'occurrence c'était le papa de notre paysagiste qui est à la retraite, qui est un jardinier passionné aussi. Donc voilà, il était heureux comme tout de participer et ne serait-ce que de transmettre un petit peu de sa passion et de son savoir. Voilà. Ces herbes, enfin je dirais ces fruits, ces herbes sont à disposition des salariés. Donc voilà, ils sont bien motivés. Donc il n'y a jamais, je dirais, de... je sais pas si j'ai plus de slides après, je crois. Hein, j'ai terminé. Hein. Voilà, donc voilà, je voulais juste vous montrer un peu la participation des salariés au sein de l'entreprise qui en redemande, puisque là aussi la dernière journée jardinage qui s'est déroulée il y a 3 semaines, 1 mois, il y a une personne qui m'a dit c'est à renouveler. Voilà, donc ça fait toujours plaisir.
Merci beaucoup. Idéal.
Alors donc bonjour, donc François Bollia, donc je suis responsable biodiversité à Terre Idéale. Je vais intervenir à deux voix peut-être avec Yves Poussin, mais on va aller relativement vite parce que je crois que tout le monde a faim.
On va essayer de faire court et puis d'aller voilà. Direct.
Donc Terre Idéale, donc ici on est sur un territoire engagé pour la nature, nous on est une entreprise engagée pour la nature, donc avec des engagements nationaux sur la prise en compte de la biodiversité dans nos métiers. On est une entreprise de 2300 personnes avec une activité sur les travaux publics, voirie, construction et puis espace vert. Et donc on a une agence qui est pilotée ici par Yves Poussin dans la Loire, qui compte une trentaine de personnes. Et donc nous, nos métiers, c'est de l'aménagement, de l'entretien d'espace vert avec en gros une clientèle qui est composée pour moitié de public et pour moitié de privé. Depuis l'année dernière, en fait, on entretient le site de Métrotech. Alors Saint-Étienne Métropole n'est pas notre client direct, hein. On a un intermédiaire qui s'appelle Dalkia. Si vous pouvez revenir juste sur la diapo d'avant, je vais aller vite, mais quand même. Dalkia, donc c'est une entreprise intermédiaire, hein. Donc nous, notre client est Dalkia et pas Saint-Étienne Métropole. Donc on fait l'entretien de Métrotech depuis l'année dernière, et ce contrat en fait c'est un contrat, je dirais classique. On a convenu avec Saint-Étienne Métropole de le transformer en une gestion écologique de ce site. Et donc ça commence par une cartographie qu'on a rapidement vue tout à l'heure, mais c'est le travail qu'on a fait avec nos cartographes et puis nos opérateurs pour essayer de délimiter les espaces et puis convenir ensemble, entretien Saint-Étienne Métropole, entre les partenaires associatifs et puis nos opérateurs de mode de gestion et que tout le monde se comprennent bien et avoir un document partagé et commun.
Ouais. Alors pour compléter, en fait, c'est vrai que la plus grande difficulté sur des marchés en fait souvent d'appel d'offres, c'est que on est souvent contraint par un cahier des charges qui bloque un certain nombre de prestations, un certain nombre de fonctionnements. Et la problématique, c'est que si on veut favoriser la biodiversité, finalement, le mode de gestion doit changer presque tous les ans. On doit l'adapter en fonction de ce qui est constaté et remonté du terrain. Et là, typiquement, bah, on est sur un site où on a un fonctionnement qui, on va dire, reste encore assez proche de l'horticole. Et l'idée, c'est de travailler, entre autres, avec Dalkia et Saint-Étienne Métropole pour essayer d'orienter sur une méthode différente. Où la cartographie va permettre aussi de faire évoluer l'entretien, et cette cartographie va bouger en fait dans le temps. On va pas maintenir ces espaces comme ils sont aujourd'hui, on va les adapter en fonction de l'utilisation des utilisateurs présents, mais aussi en fonction de ce qu'on va constater au niveau de la biodiversité sur site. Donc c'est pour ça qu'on a une première cartographie qui a été présentée, mais qui est amenée à évoluer, puisqu'on a ciblé en fait des zones où il y a des espaces boisés, des zones de prairies et des zones où on peut facilement mécaniser pour faire de l'entretien avec de l'export une fois dans l'année, ou des zones plus difficiles à gérer, où on peut proposer de l'éco-pâturage. Voilà, on a essayé de développer. Et un grand constat qu'on a eu sur le site de Metrotech, c'est que il manque une strate, qui est la strate arbustive. Et du coup, on a essayé de travailler sur ce dossier. Donc, François, je te laisse compléter.
Donc,
avec
pause les... suivante. Alors, dans les prestations, alors évidemment, on a le cadre. On a un cadre, voilà, contractuel avec un montant de prestations de prestations classiques. Et puis, nous, l'objectif, c'est de le transformer justement en gestion écologique à coût similaire, quoi. Voilà, à peu près similaire. Donc on a 6 tons de par an, vous avez vu qu'il y a de l'herbe en ce moment, voilà, on est au mois de juin, il pleut, il fait chaud, il y a de l'herbe, 6 tons, on a de l'herbe sur le site, c'est normal, et on est sur un mode de gestion extensive, donc on fait les tons, je dirais uniquement les espaces, les espaces de pique-nique, les tours de bâtiment, ce genre de choses, avec 6 interventions par an, c'est une tonte en mulching, donc ça veut dire on laisse l'herbe sur place, pour aussi limiter les productions de déchets verts. Ensuite, l'autre espace qui est vraiment important, diapo suivante s'il vous plaît, ça va être les espaces de prairies. Donc les prairies, je rejoins ce que disait Bruno tout à l'heure sur la disparition de la biodiversité, qui est notamment liée à l'intensification de l'agriculture. Et je vous renvoie à l'étude du CNRS récente, là, d'il y a un mois environ, qui explique la disparition des oiseaux du fait d'une intensification de l'agriculture. Ici, on a la chance d'avoir des espaces de fauche, des grands espaces de prairies. Et on a beau être sur un espace qui est, comme le disait Yves, sur une démarche horticole, on va faire, et on a commencé l'an dernier à faire de la fauche avec ramassage. Donc c'est de la fauche agricole. On conserve des zones refuges, c'est-à-dire qu'effectivement, l'idéal, ce serait de la faire un peu plus tard. Mais si on veut faire de la fauche avec ramassage dans la contrainte financière qu'on a, on l'a fait comme en mode agricole, mais en conservant des zones refuges pour la faune, qui sont des zones qui sont très importantes, puisque c'est des zones qui vont conserver des petites populations d'insectes. Hein, quand vous mécanisez en fait l'entretien d'un espace vert, quand vous passez un broyeur dans une prairie en plein printemps, vous tuez entre 60 et 80% des insectes. Et donc là, la fauche avec ramassage, en conservant des zones refuges, est importante pour justement conserver ces petites populations d'insectes qui vont pouvoir ensuite se réimplanter sur le reste de l'espace. Yves parlait tout à l'heure de la strate arbustive. Donc la strate arbustive, elle est pas très développée. Pour la développer, il y a deux possibilités. C'est soit effectivement on va planter des arbustes. On a des zones dans les pentes et compagnie. Ça nécessite des moyens et puis des arrosages, des désherbages, ce genre de choses. L'autre moyen qu'on pourrait aussi se développer, mais c'était vu tout à l'heure dans la diapo précédente, c'est conserver un petit peu le principe de haies naturelles qui vont se développer dans des pièges à graines où on peut laisser des branches mortes, ce genre de choses. Dans la contrainte financière qui nous est imposée, c'est des modes d'entretien qui sont à notre sens pertinent. Ensuite, c'est pas encore complètement statué, mais on est en train de regarder pour mettre en place de l'éco-pâturage. Donc là, l'éco-pâturage, c'est aussi un mode d'entretien doux qui est pertinent, qui va éviter de tasser les sols et qui va préserver notamment les populations d'insectes. Donc là, il y a des zones qui sont prévues à l'éco-pâturage. Il y a encore des petits détails de financement, de clôture, ce genre de considérations. Bassement financière à régler, mais voilà, ça, c'est le genre de choses que sans doute on mettra en place ici. Diapo suivante. On a parlé des arbres et donc c'est intéressant effectivement d'aller installer des arbustes. L'implantation des haies est importante. En espace vert, on a des haies qui sont avec des arbustes très fleuris naturellement, sauf que quand elles sont placées à 30 cm d'une voirie, on est obligé de les couper sans arrêt. Ce qui est dommageable, parce que la plupart des fleurs en fait vont pousser sur les rameaux de 1 an, et quand on est obligé de couper deux fois par an, de tailler deux fois par an les arbustes, évidemment l'intérêt de floraison et de fructification, bah, il disparaît complètement. Donc ça va être une gestion différente avec des tailles raisonnées, c'est-à-dire on évite de tailler aux tailles haies quand il y a des haies, okay. Et on utilise plutôt le sécateur pour favoriser le port naturel des végétaux. Et ensuite, alors on a, on pratique aussi. Alors évidemment, on est zéro phyto, ça c'est un engagement de nous au niveau national, bien sûr. Mais on pratique la lutte biologique. Là, l'exemple qu'on a ici à traiter, c'est principalement la processionnaire du pain, en utilisant les équilibres écologiques, c'est-à-dire que pour les processionnaires, bon, je pense que vous connaissez tous le cycle de ces chenilles urticantes, mais l'objectif pour nous, c'est d'intervenir avec des pièges à phéromones. Les pièges à phéromones, c'est entre 40 et 60% de nids en moins. C'est même très neutre pour la nature, donc c'est efficace. Couplé à des installations de nichoirs à mésanges. Les nichoirs à mésanges, il y a des études très intéressantes de l'INRA sur l'intérêt des nichoirs à mésanges sur les populations pour limiter les populations de processionnaires du pin et processionnaires du chêne qui se développent maintenant et qui arrivent jusqu'en Rhône-Alpes. Donc là, ce sera sans doute un truc pertinent à imaginer sur le site de Metrotech, d'autant qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres anciens avec des cavités. Et puis après, éventuellement, les installations d'éco-pièges, mais on va éviter, et même on ne fera pas, de projection de bacillus. Donc c'est un produit bio, mais qui va tuer toutes les chenilles, et pas uniquement les chenilles de processionnaires. Et puis, oui, alors donc il y a deux mares qui ont été réalisées il y a pas très longtemps. Donc voilà, très intéressante. Et enfin... on a aussi dans notre façon de gérer une attention particulière sur les espèces exotiques envahissantes et en particulier l'ambroisie des problématiques d'allergie. Donc là c'est de la fauche, mais aussi surtout semer et pas laisser de terrain à nu. Et puis vous verrez quelques pieds de renouée sur le site sur lequel on fait attention. Et nous on préfère ne rien faire que de broyer, comme vous le disiez tout à l'heure. Les épareuses sont des propages assez lourdement quand même les renouées. Et en fait, nous on compte beaucoup sur la végétation existante qui en fait contient ces plantes. Et donc on intervient le moins possible. Ou si on intervient, c'est avec des coupes nettes qui vont éviter d'arracher le système racinaire pour le projeter ailleurs. Toute cette gestion-là, elle doit être comprise. Donc nous, en fait, on se tient à disposition aussi des entreprises de Saint-Étienne Métropole pour expliquer la gestion. Il faut que ce soit compris pour être accepté. On a eu des remarques, nous déjà, par exemple, sur comment ça se fait qu'il y a de l'herbe haute, il y a des balles de foin. On en est où? On est quand même dans un vent. Voilà. Donc tout ça, si c'est pas compris, en fait, on a des remontées qui sont pas forcément toujours très très agréables. Donc, mais une fois que c'est expliqué, souvent ça passe beaucoup mieux. Donc on se tient à disposition aussi de Saint-Étienne Métropole et des entreprises qui sont hébergées sur le site. Voilà.
Là, parce qu'on avait convié la presse pour 12h30, comme on avait un peu de retard, donc j'ai dû donc aller accueillir les journalistes. Et puis, comme à chaque fin de table ronde, vous voyez, on retombe sur quelque chose que vous retrouvez dans la mallette qui vous a été distribuée. Là, c'est le guide de gestion écologique des espaces verts. Donc, chaque fois qu'on vous propose des choses, vous retrouvez de façon très concrète donc comment faire et des fiches vraiment, vraiment très détaillées. Voilà. Donc je pense que la matinée tire à sa fin avec un peu de retard et j'en suis désolée. Alors je vais à nouveau vous renouveler tous mes remerciements pour bien sûr avoir répondu présent. Je sais qu'il y a des gens là qui ont été obligés de nous quitter parce que malheureusement on avait ce petit retard. Et là maintenant nous allons passer donc aux engagements, c'est-à-dire vous savez que nous avons un plan, je vous l'ai dit tout à l'heure, le plan climat air énergie. J'ai souhaité, avec ce lancement de la stratégie biodiversité métropolitaine qui a été adoptée à l'unanimité, je vous l'ai dit, donc je souhaitais rajouter un pendant à ce plan climat, un pendant avec de la biodiversité, Et là, maintenant, eh bien, aujourd'hui, il y a déjà des acteurs qui vont venir nous rejoindre sur scène, qui disent oui, on va s'engager avec Saint-Étienne Métropole à signer cette charte de la biodiversité. Et on aura, bien sûr, la signature officielle au mois de novembre lors de notre plan climat. Donc, il y aura beaucoup d'autres acteurs qui nous rejoindront jusqu'au mois de novembre. Voilà.
Oui, on va demander aux participants de la table ronde numéro 3 de retourner s'asseoir.